Cercavo la grande bellezza. Ma non l'ho trovata.
That's funny. What? That plane's dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor d'Étoiles plein les yeux. En ce qui concerne la toile, je tenais à y projeter au moins une fois cette année un film issu de ce genre vaste, protéiforme, fascinant et méconnu qu'est le cinéma documentaire. C'est chose faite cette semaine avec les habitants de Raymond Depardon. Et à mes côtés pour en discuter, Mathias, Arthur et Marie. Bonjour à tous.
Bonjour.
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 Alors on ne présente plus Raymond Depardon, sans doute l'un des plus grands photographes français de sa génération. Et on se souvient de ses travaux de ces dernières années où il se penchait sur la France avec minutie et à rebrousse-poil pour ainsi dire en s'intéressant à ses petits détails, à toutes ces petites vies dont elle fourmille, à ses paysages les plus ordinaires. C'est dans cette direction qu'il nous emmène à nouveau avec les habitants. Et après avoir équipé une vieille caravane d'une caméra, Depardon part sur les routes de France, la France des sous-préfectures et des allées de platane, et invite des gens croisés dans la rue à discuter dans la caravane. C'est donc une galerie de couples qui discutent qui nous est montrée, ni plus ni moins. On voit une mère qui reproche à son fils de ne pas venir la voir assez, de vieilles dames qui se plaignent de l'immigration, de jeunes filles qui parlent de religion, et ainsi de suite. Avec l'impression insaisissable de voir dans ce collage bariolé quelque chose d'un petit peu essentiel. Alors Marie, Arthur, Mathias, quel est votre avis ?
Alors mon avis, c'est que j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai quelques objections à faire quand même sur ce film.
Oh non ! Moi, j'ai trouvé ce film, en effet, intéressant. Et j'ai peut-être un peu moins d'objections que toi.
Qu'est-ce t'en sais ?
En tout cas, les tiennes ne seront pas les miennes.
Oui, bah, quant à moi, j'ai trouvé ce film assez déstabilisant dans sa structure et dans comment il était fait. Après, j'ai trouvé que c'était quand même un très bon film. Une belle tranche de vie.
Et de sociologie.
Oui.
Et d'humanité, peut-être aussi.
Parlons-en.
Oui, parce que justement, ce qui me plaît dans ce film, c'est justement que ça verse à aucun moment, il n'y a aucune tentation du pensum sociologisant. Et justement, c'est juste un film qui montre les choses telles qu'elles sont. Et même si, alors au début, on a forcément un petit peu de mal à rentrer dans le film, parce que c'est quand même du cinéma documentaire, il faut s'habituer aussi à la façon dont sont montrées les images.
Sachant que même les premières séquences, les personnes qui passent à l'écran ont même du mal à rentrer dans
oui.
le film.
Mais pourtant, moi, au bout de une heure et demie, enfin, c'est vrai que quand le film s'est terminé, moi j'avais pas vu passer l'heure et demie et c'était vraiment très bon moment.
Il y a un effet comme ça à la fin parce que surtout il n'y a pas d'effet d'annonce que ça va être la fin et que c'est fini. Parce que du coup, le film se termine sur une fin de dialogue et on se dit, bah voilà, c'est fini.
Oui, parce que ça aurait très bien pu ne pas finir là et d'ailleurs ça ne finit pas là en fait.
Oui, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, je pense, quand tu disais qu'il y avait un regard assez neutre de la part de Depardon, que c'était pas un pensum sociologique. Mine de rien, il y a quand même un pensum sociologique parce que le film est construit. Et il n'a pas mis les villes les unes après les autres, à mon avis, dans le sens où il les a tournées. Enfin, j'ai pas assez
non.
lu sur
et
le
ne
film.
Ne serait-ce qu'on peut penser qu'il y a eu une sélection et qu'il n'a pas mis
oui.
voilà. tout.
Oui, je crois qu'il y a 24 couples voilà. sur 90.
Déjà, il y a une sélection et puis il y a un ordre de passage qui fait que progressivement il construit. Et si les premiers ont l'air plus mal à l'aise, les derniers sont totalement désinhibés face à la caméra. Et ça, c'est quand même le fruit de sa volonté, je pense, de progressivement nous faire rentrer en même temps que ces personnages dans le film.
Oui.
Oui, et c'est très bizarre parce que je me suis toujours demandé dans quelle mesure les gens sont sincères quand ils parlent. Est-ce parce qu'ils savent quand même qu'il y a une caméra. Et quand on a des gens qui quand même disent des choses très intimes, très personnelles, parfois un peu limites, et tu te demandes, mais toujours, dans quelle mesure ils savent que la caméra est là, et dans quelle mesure ils en jouent aussi.
Oui. Ou est-ce que, dans quelle mesure, Mamie Facho, c'est que ses propos sont écoutés, et que toute la France va savoir.
Oui, mais malgré tout, on a l'impression qu'il y a une forme de naturel, qu'on n'a pas le début de la conversation, où ils s'habituent à la présence de la caméra, et à part, en effet, dans quelques scènes au début, on a quand même cette impression que les gens se sont abstraits de cette présence de la caméra, et se contente de discuter. C'est ça qui est assez fort, je trouve, dans le film. C'est que c'est vraiment un film sur des mots, sur le verbe, sur des voix.
Des accents
aussi. Sur des accents, oui.
Des accents aussi, mais c'est très intéressant, cette façon vraiment de se pencher sur la parole et d'être simplement à l'écoute de ce qui se dit.
Moi, je serais curieux de savoir quelles sont les faiblesses du film pour toi, Marie, parce que tu avais l'air de dire qu'il y avait...
Alors, c'est pas une faiblesse, c'est plus une interrogation que j'ai. Sachant qu'on est dans un film documentaire et que donc on postule que les gens sont de vrais gens, que ce ne sont pas des acteurs, que ce qu'ils racontent est vrai, il y a un certain nombre de choses dont je ne sais pas si... Enfin, je m'interroge, je ne sais pas s'il faut le censurer, s'il faut le montrer à l'écran. Il y a un certain nombre de couples qui ont des discussions très limites. Par exemple, il y a deux lycéens qui parlent de... Enfin, qui s'amusent du fait qu'ils ont tabassé un de leurs camarades à l'internat. Il y a les deux personnages qui... alors voilà, c'est le versant. Moi, je vis le harcèlement de rue de l'autre côté. Là, c'est l'autre sens, c'est les deux hommes qui harcèlent. Et la manière dont ils en parlent, et je sais pas si... Enfin, ça me met un peu mal à l'aise, tu vois. Sachant que c'est des vraies personnes et que derrière, il y a des vraies réalités. C'est pas des acteurs à qui on a demandé de jouer de la violence pour la mettre en avant ou la critiquer ou je ne sais quoi. C'est des vraies personnes et je ne sais pas dans quelle mesure on peut montrer ça.
Mais justement, enfin, c'est des mots qu'on n'entend jamais nulle part. C'est des attitudes qu'on ne voit pas, qui sont pas montrées.
Mais je sais pas si j'ai envie d'entendre l'attitude du harceleur, tu vois.
Oui, mais je pense que c'est très important aussi de savoir simplement de... Enfin, je veux dire, c'est là justement ce qui est particulièrement touchant, je trouve, dans la démarche du réalisateur, c'est que justement il part sans aucun a priori sur les personnes qu'il filme, et c'est ce qui donne toute sa crédibilité en quelque sorte au film, le fait que il ne juge à aucun moment ce qui est dit et qu'il se contente de nous poser les yeux sur cette réalité, sur ces gens qui sont finalement la population française de cette France du milieu, entre guillemets, avec tout le flou que ça implique.
Oui, c'est ça, je pense que c'est aussi... Alors, il y a deux éléments qui sont assez intéressants dans ce que vous venez de dire. Déjà, la France du milieu. La présentation du film, ou en tout cas telle que Depardon fantasme la France, c'est-à-dire, il a dit « j'ai pris la France dans sa diversité », il est quand même... Enfin, et surtout, j'ai voulu montrer ce que c'est que la France en dehors de Paris, peut-être, mais la France des villes moyennes, c'est pas Nantes, c'est pas Bordeaux, c'est pas Montpellier...
Et pour revenir à ce que tu disais sur le harcèlement, entre autres, parce que la question de la femme, de la femme et des rapports homme-femme revient à plusieurs reprises dans le film. Il y a pas mal de journaux qui ont titré le premier film féministe de Depardon, et lui-même a employé l'expression, je crois. Et c'est aussi quelque chose que je trouve vachement intéressant dans le film, la façon dont il traite la question des sexes, et comme je disais tout à l'heure, de façon extrêmement subtile et sans jamais s'engager à fond dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est absolument pas un film militant, et malgré tout, on sait de quel côté il se place.
Ben déjà, alors j'ai pas compté sur le nombre de couples, mais les femmes étaient déjà très représentées, c'est déjà important, parce que c'est pas le cas forcément partout.
Donne la parole.
Et déjà, le fait de donner la parole, c'est très important. Et c'est vrai qu'on voit des situations très diverses, dont certaines qui font beaucoup de peine à voir. Je pense à cette femme qui était battue depuis 11 ans et qu'en même temps un regard très distancié sur ce qu'elle a vécu, qui a réussi à le formuler, à le conceptualiser. Enfin, c'est très intéressant d'entendre ça, j'ai trouvé.
Une grande, on en a parlé en sortant, enfin, on était stupéfait par cette intelligence qui ressortait de cette personne-là, enfin, à la fois son humanité et sa capacité à prendre du recul par rapport à sa situation à elle, qui était juste horrible, quoi.
Et c'est génial d'avoir un film pour voir ça. Il y avait aussi des séquences drôles, enfin, je pense à le couple avec le voyant, enfin, oui. c'est génial parce que la séquence, c'est une petite nouvelle, ça commence, on croirait que c'est un couple normal avec ses préoccupations normales de où est-ce qu'on va passer les vacances,
puis
etc.
C'est un sketch,
et à un moment, la chute tombe et en fait, le mec est voyant, quoi. Et...
Non seulement le mec est voyant, mais voilà, il y avait plein de petites bizarritudes. On pensait que c'était plutôt la femme qui était bizarre, enfin, parce que...
Ah non, c'est toi, Arthur, moi j'ai rien dit.
Mais si, non mais arrête. La fille lui expliquait que oui, elle pouvait pas dormir avec quelqu'un dans la même pièce. Et lui disait, mais tu sais, un couple normal, des fois ça arrive de dormir ensemble, et voilà. Et donc il expliquait ce que c'était qu'être un couple normal, alors que lui-même était voyant, donc extra normal. Enfin, voilà, non, ça c'était génial. Mais pour l'histoire de la femme battue, c'est vrai que là on a vraiment de l'empathie avec elle, mais. C'est ce qui était un peu gênant quand tu évoquais tout à l'heure ces deux jeunes qui avaient tabassé leur collègue, enfin leur camarade de classe. Et pareil, eux, on commence avec eux dans une toute autre histoire. Ils parlent lors de l'année lycée,
oui,
avec émotion.
On croirait deux bacheliers qui se demandent ce qu'ils vont faire après. Bon,
voilà, ils sont perdus.
C'est émouvant au début.
Non, c'est les préoccupations du bachelier moyen qui raconte son collège en internat comme des milliers d'autres jeunes collégiens ont pu avoir des souvenirs comme ça. Et tout d'un coup, sur la fin, paf, ça bascule. Ils nous racontent comment ils ont été et comment ils se souviennent avec bonheur, heureux de taper avec une serviette leur copain. Et ça, c'est bizarre. Je veux dire, on a un sentiment de gêne parce qu'on est rentré en même temps en empathie avec eux et on n'ose pas trop. Enfin, on ne sait pas comment les condamner. Ou
mais de même pour ces deux jeunes à la fin qui voient passer les filles et qui parlent d'elles comme de bouts de viande. Enfin, je veux dire.
Oui,
et
ouais.
mais
qui c'est... disent elles le cherchent bien.
Et qui disent elles le cherchent avec tout le discours que l'on sait. Mais c'est justement un discours qui est toujours à l'état de discours et qui là est vraiment prononcé par les personnes qui le vivent au niveau le plus fondamental. Et je trouve que c'est touchant aussi de voir ces gens-là de près, parce que finalement on parle toujours de harcèlement de rue.
Je n'irais pas jusqu'à dire touchant, mais, je dirais intéressant.
Non mais on parle systématiquement du harcèlement de rue sans s'intéresser absolument, enfin, au harceleur lui-même. Et je trouve que c'est intéressant de se pencher sur le harceleur et sur la femme battue indifféremment.
Parce que je trouve
pardon Mathias, oui. Je pense que le spectateur est tout à fait capable de toute façon de se faire un avis tout seul pour savoir l'attitude à adopter quant au harcèlement. Mais justement, on considère le spectateur comme à même de savoir analyser le discours qu'il entend.
Ce que je trouve qui est quand même une sorte de claque un peu politique, c'est de se dire que les discours qu'on entend dans les médias, qui sont souvent des discours rapportés, en fait, ce sont des vrais discours que des vrais gens tiennent au quotidien. Et ce sont pas juste des choses dont on entend, parce que quand on vient de certains milieux qu'on n'entend pas dans son environnement, et de savoir que ça existe vraiment, et que du coup, il y a vraiment des fractures d'un point de vue du discours et dans la façon dont les gens parlent, dans la façon des sortes de bêtises ou de phrases toutes faites que les gens peuvent répéter sans se poser de questions. Et je vois, il y a des moments où on a envie quand même d'entrer dans l'écran et de dire non mais tu peux pas dire ça.
Tu penses à quelque chose en particulier?
Oui, il y a tout ce qu'on a dit sur le harcèlement. Il y a aussi ce passage où il y a un père qui dit à son fils qui a 19 ans, et le fils a un peu peur, il dit je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie, et le père lui dit
prends ton temps.
Et après la conversation tourne sur le rapport des générations, parce que le fils lui dit oui, de toute façon à ton époque on pouvait ne pas faire d'études et on s'en sortait, il y avait du boulot comme tu voulais,
les 30 glorieuses,
voilà. Et le père lui balance oui mais de toute façon si t'as pas de diplôme t'as juste à travailler plus que les autres. Et t'as envie de... là en fait la séquence se termine là, et t'as juste envie de dire mais non, c'est plus ça aujourd'hui.
Et le rapport entre les générations est intéressant aussi, parce qu'il y a ces deux vieux à 7 qui parlent justement, qui essayent de se mettre à la place des jeunes et qui comparent ça à leur jeunesse et qui en fait ont un regard super lucide sur la perte de repères d'une certaine jeunesse. Et je trouve qu'ils sont aussi très très intéressants.
À la fois lucide, nostalgique et peut-être un peu réactionnaire aussi. Enfin,
oui. Ce qu'ils balancent à la fin, c'est quand même une phrase toute faite en disant « aujourd'hui, il n'y a plus de repères ».
Voilà,
il y a quand même dans ce film, il y a des passages où les gens débitent des phrases toutes faites. Il y a le passage sur les deux femmes qui parlent de religion, mais t'as envie de leur dire, vous avez appris ça où? Parce que elles balancent des phrases qui ne veulent rien dire, qui sont une sorte de désinformation, une sorte de mélange d'informations qui sont un peu...
J'ai adoré celle qui citait le Coran, tu sais, là où c'est marqué en rouge.
Ah oui.
C'était pas mal, tu vois, c'était assez sincère.
Ou celle qui dit la Bible, le pape, s'il a envie, il peut la changer.
Ce qui est clair, en tout cas, c'est que ça questionne notre posture de spectateur. Parce que là, dans ce qu'on dit, on est toujours à la frange entre le regard distancié du CSP+, ou je sais pas quoi, qui va analyser cette frange d'en bas. Enfin non, mais faut être clair aussi sur ce qu'on vient de dire là aussi, c'est révélateur de la manière dont on aborde le film. Est-ce que le film, il est pour... est-ce que c'est une forme d'animalerie? Enfin, je caricature totalement le film, mais une animalerie pour des gens qui ne verraient jamais ça? Ou est-ce que c'est une auto-représentation, sachant que De Bardon n'est pas non plus lui-même issu de ce monde-là, même s'il le côtoie un peu plus? Enfin, voilà, quel est l'objectif? Quelle est la finalité? Est-ce que c'est inscrire un témoignage de ce que c'est que la France, alors que c'est pas possible de figer sur le papier ce que c'est que la France, est trop divers? Mais en même temps, ça peut donner une illusion à certains bobos bien-pensants d'avoir été confronté pendant quelques secondes à la réalité de ce que c'est que la France.
Voilà. Oui, oui, exactement. Il y a des séquences qui, ben, on le disait tout à l'heure, qui sont vraiment très drôles. Hein. Enfin, moi, dans la salle, on riait, quoi. Parce que ben, c'est deux mamies qui débitent leur fascisme sans aucun scrupule.
Oh là là, Estrosi, qu'est-ce que c'est bien.
Oui, non, mais il y a quand même un côté jouissif.
Mais c'est quand même assez significatif, parce que c'est cette femme qui balance quand même des répliques racistes à tire-larigot. Elle est, parce qu'elle, c'est une femme qui a vécu Villeneuve-Saint-Georges au moment où c'était prospère, au moment où ça a commencé, où c'était une banlieue florissante, où c'était pour les gens de classe moyenne. Et c'est une personne qui a vu l'évolution et qui le vit très mal, en fait.
Ouais.
Et d'où une forme de racisme, parce qu'elle considère que elle est plus chez elle, parce que sa ville qu'elle connaissait n'est plus la même.
Voilà donc les habitants de Raymond Depardon, c'est au CNP Terreau encore pour quelques semaines et on vous invite à y aller. Au menu de votre semaine de cinéma, bien des choses une fois de plus, et je commence tout de suite avec Maloute de Bruno Dumont avec Fabrice Lucchini, Juliette Binoche et Valeria Bruni-Tedeschi. C'est en été 1910 dans la baie de la Slack dans le nord de la France. Aude van Petegem, une grande bourgeoise lilloise, s'extasie sur la beauté des lieux devant André, son frère passablement agacé, en vacances avec sa femme Isabelle. De mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son adjoint Malfoy, très Dupont et Dupont, mènent l'enquête et se retrouvent bien malgré eux au cours d'une étrange et dévorante histoire d'amour entre Maloute, fils aîné d'une famille de pêcheurs aux mœurs particulières, et Billy Van Petegem, la benjamine de ces riches bourgeois. Une histoire complètement loufoque, semble-t-il, à la vue d'une bande-annonce qui laisse présager un moment de cinéma jouissif et délirant.
Oui, je ne sais pas si vous aviez vu la série Le Petit Quinquin réalisé par
Bruno Dumont, oui.
Ah, c'était excellent. Enfin, il avait pris des acteurs non professionnels comme dans ce film. Donc je pense que ça promet d'être à la fois délirant et en même temps aussi une forme de plongée dans le réel, quoi.
Je continue avec Café Society de Woody Allen avec Kristen Stewart et Jesse Eisenberg. Nous sommes à New York dans les années 30, coincés entre des parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie familiale. Dobby Dorfman a le sentiment d'étouffer. Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood, où l'oncle Phil, puissant agent de star, accepte de l'engager comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber amoureux. Malheureusement, la belle n'est pas libre et il doit se contenter de son amitié au milieu de cette effervescence Café Society qui l'emporte bien vite dans son tourbillon de superficialité. Jusqu'au jour où la jeune femme débarque chez lui pour lui annoncer que son petit ami vient de rompre, et puis comme d'habitude, à n'en pas douter, Woody Allen s'amuse, pirouette, ironise, comme il le fait si bien. Je termine en rappelant que la rétrospective consacrée à Roman Polanski par l'Institut Lumière se poursuit. Cette semaine, vous pourrez voir par exemple Frantic, puis son hommage au cinéma hitchcockien. À l'Institut Lumière également, le premier film de Terrence Malick, La Balade Sauvage, épopée farouche et tragique dans le Middle West américain. Et puis, un certain nombre des films que nous avons commentés ici sont encore en salle, dont l'époustouflant Les Ogres, que je ne suis pas prêt d'arrêter de couvrir de superlatifs enthousiastes. C'est au cinéma, rue Saint-Polycarpe, dans le 1er arrondissement. D'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Arthur, Marie et Mathias pour m'avoir accompagné aujourd'hui. N'hésitez pas à poursuivre la discussion en commentant la page de l'émission sur transistor.fr en attendant le prochain épisode, qui sera diffusé en direct mardi prochain à 15h45.